C'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter, la faute.
Ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents.
Bonsoir.
Bonsoir.
Allez, bonsoir.
Bonsoir, bienvenue sur Radio Canu.
Alors... La plus dynamique des radios, la plus réactive.
Donc normalement.
Ok. Vous pouvez faire une petite sieste.
Non, bienvenue. Donc on est bien le lundi 19 novembre. Et voilà. Donc on va commencer le Canu Info. Aujourd'hui, on va continuer à faire notre petit tour du monde. On va commencer par les États-Unis en revenant sur les grands incendies qui sont en train de ravager cet État. On va partir au Liban pour voir une manifestation des femmes contre la question de la pollution. On va continuer, on va retourner sur un autre continent, on va passer en Australie cette fois, où on va voir une très grande victoire, en fait, que Foodora reconnaît, en fait, grâce au combat de beaucoup de personnes, évidemment, et des livreurs, le statut d'employé caché de ces livreurs. Et on va revenir un peu plus près de chez nous, et en regardant toutes les mobilisations étudiantes anti-Salvini en Italie qui ont lieu ces derniers temps. Après un petit intermède musical, on va donc passer au national et revenir sur l'interdiction de l'association Genepi en prison, donc qui est une très vieille association et qui a été interdite parce qu'elle parlait trop.
Vas-y, fais le sujet. Le sujet. Si tu peux faire le mien, parce que j'ai pas fini de me préparer, ça serait top.
On va continuer en allant à Marseille, mais je suis sûr, je vais citer juste les villes. On sera à Marseille après, pour revenir sur les manifestations anti-Godin.
Stop.
La suite tout à l'heure. On va finir par le local, en travaillant donc en parlant sur l'augmentation du coût des transports en commun à Lyon, qui est devenue la ville la plus chère de France.
Va devenir.
Oui, mais je ne sais pas si elle n'est pas déjà en fait, sur certains.
On en parlera tout à l'heure.
On lancera le débat tout à l'heure, c'est pas grave.
Voilà, ça fait 15 minutes que l'émission a commencé, mais
on a déjà perdu tout le monde.
Et on n'a pas fini les titres. On finira par souhaiter la bienvenue au nouveau préfet Pascal Mélos. Et pour finir sur la très triste et très violente offensive policière contre les antifas lyonnais.
Très bien, on va commencer donc par la Californie, puisqu'en ce moment et depuis plus de 10 jours, l'État de la Californie subit un immense incendie, le plus meurtrier depuis 1933, puisqu'on en est à plus de 65 morts confirmés et plus de 600 disparus. L'État en connaît régulièrement des incendies chaque année, et même pour 2018, ce n'est pas le premier. Les autres étaient déjà conséquents et meurtriers, mais celui-ci vient de littéralement rayer de la carte une ville de 27 000 habitants, la ville de Paradise. Comme cause à ces incendies, sont pointés du doigt la compagnie électrique locale qui n'entretient pas assez ses lignes à haute tension, mais aussi la culture intensive des amendes extrêmement vorace en eau, et puis le fameux réchauffement climatique qui n'existe pas. D'ailleurs, pour Trump, la seule cause de ces incendies, c'est le mauvais entretien des forêts. Mais bref, ce qui est plus intéressant, c'est la mobilisation et l'organisation pour lutter contre ces incendies. La Californie, c'est un état dans lequel vivent beaucoup de stars et plus largement de personnes plutôt fortunées. Pas que, Vous pouvez donc aller retrouver sur Internet les témoignages d'Orlando Bloom, de Neil Young ou encore de Miley Cyrus qui ont perdu leur maison. Mais ce n'est pas le cas de toutes les stars qui habitent en Californie. Par exemple, Kim Kardashian et Kanye West ont fait appel à une brigade de pompiers privés qui s'est donc concentrée sur la protection de leur maison et de ses environs. Il existe aussi, pour ceux qui en ont les moyens, une assurance incendie qui garantit l'intervention d'une brigade, encore une fois privée, employée par la compagnie d'assurance, pour protéger la maison des assurés. De quoi rappeler qu'à part la connerie, rien n'est uniformément partagé par les riches et les pauvres, même pas les catastrophes naturelles. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas cette fameuse assurance et qui doivent s'en remettre aux pompiers gérés par l'État, qu'est-ce qu'il se passe ? Ce sont des brigades plutôt normales qui interviennent, mais pas que. Parce que parmi ces brigades, on trouve des prisonniers, des détenus sortis pour l'occasion de camps de conservation et affectés par quinzaine à des brigades de pompiers volontaires. Volontaires, ils le sont en effet, mais ils n'ont pas exactement le même statut, puisque ces derniers ne touchent que 2 dollars par jour d'intervention, en plus de 1 dollar par heure de travail, plus, gros bonus, 2 jours de remise de peine par journée de mobilisation. L'utilisation de personnes vulnérables car privées de leur liberté pour faire de la main-d'œuvre à bas coût, c'est un sujet qu'on a déjà traité, et pour ne pas être trop redondante, je vous renvoie à l'émission du lundi 17 septembre que vous trouverez sur le blog des Canu Info. Pour faire court, ce type de pratique, ça existe au bénéfice de plusieurs industries aux États-Unis mais aussi en France.
Et du coup, on va continuer maintenant aux côtés des Libans pour parler de la manifestation des femmes. Il faut rappeler, et la journée du 17 novembre 2018 est marquée par une forte mobilisation des femmes dans le centre-ville de Beyrouth pour manifester contre la pollution dont elles sont victimes. Elles sont descendues dans les rues de la capitale pour réclamer aux autorités de leur pays des mesures pour améliorer la santé des habitants. Ces femmes ont décidé certainement de marcher pour améliorer et pour la protection de l'environnement. Il faut dire, elles dénoncent une classe politique libanaise qui, selon elles, ne montre aucun signe allant dans le sens de lutter contre la pollution dont les populations sont exposées. Ces femmes sont privées aujourd'hui, pas seulement que les femmes, mais disons les habitants de la population libanaise est privée aujourd'hui de jouir du potentiel que le pays dispose. Vous savez, Liban est réputé en avoir une côte magnifique et des belles plages, avec 200 km de littoral et avec un climat aussi méditerranéen où les températures peuvent atteindre, voire même dépasser les 30 degrés Celsius. Le Liban pourrait être une destination pour la baignade, mais malheureusement non. Aujourd'hui, il faut dire, sont de nombreux habitants de cette ville qui ne se baignent plus dans ces plages à cause notamment de décès. La colère des habitants, il faut rappeler, est alimentée par des images circulant sur les réseaux sociaux, disons qui affichaient une rivière de plastique sur les réseaux sociaux. Donc dans cette situation, il faut le dire, si c'est la santé publique qui est en danger. Aujourd'hui, le taux de cancer est plus élevé au Liban qu'aux autres pays du Moyen-Orient, témoigne une habitante de cette ville. Les Libanais aujourd'hui sont exposés à toutes sortes de maladies, comme par exemple l'asthme, des maladies pulmonaires chroniques. Le traitement des ordures aurait été confié, selon toujours une source proche du gouvernement, que le traitement des ordures aurait été confié à des sociétés privées. Mais malheureusement, les résultats furent catastrophiques. Plus de 900 décharges à ciel ouvert aujourd'hui existent dans le pays où les déchets ne sont plus triés, soit brûlés sans aucun contrôle possible. Il faut dire, depuis longtemps, dans ce pays, l'État avait montré ses limites. Le pays fonctionne au gré des compromis entre les partis confessionnels, des intérêts communautaires et celles de privés qui priment. Selon la parlementaire qui faisait partie des manifestants du samedi dernier à Beyrouth, d'après elle, il n'y a plus de l'État, il n'y a pas l'État dans ce pays. Et ceux qui dirigent ou gouvernent au nom de l'État seraient des mafieux, selon les propos de la députée. Pour la députée Paola Yacoubian, cette pollution traverse le Liban, ça viendrait peut-être de la corruption de la classe politique féodale qui, selon elle, veut simplement faire des idéaux aux dépenses de la santé publique. Si toutefois, on peut dire, des solutions concrètes ne sont pas trouvées pour remédier à cette situation, c'est la santé publique, c'est la santé de plusieurs enfants qui seraient exposés. Donc, si cela reste, d'après les femmes et surtout la députée qui faisait partie de ces manifestantes, elle indique que cela peut rester une ligne rouge à ne pas franchir, parce que si toutefois l'État ne décide pas et ne prend pas ses précautions pour notamment lutter, disons, contre cette pollution que traverse le pays et cette catastrophe, c'est que elles vont continuer à manifester. Donc il faut juste rappeler qu'en septembre dernier, une loi sur la gestion de déchets a néanmoins été votée. Malheureusement, cette loi donne la priorité à l'incinération industrielle, sauf que ces manifestants n'ont confiance ni des sociétés qui vont devoir exploiter, disons, ces incinérateurs, encore moins les autorités qui sont en charge de contrôler les sociétés. Autre point important, peut-être pour terminer, il faut dire, sur les 200 km du littoral dont dispose le Liban, 80% du littoral est privatisé. Donc très peu de places publiques pour les pauvres gens qui y habitent dans cette localité, dans cette partie de la planète. Donc on ne peut qu'encourager, disons, ces femmes qui décident notamment de découdre avec les autorités de leur pays pour survivre.
Et une petite brève rapide pour relayer une information relativement bonne comparée à la moyenne des infos que l'on relaie au Canu Info. Foodora a été reconnue en Australie comme coupable d'avoir eu recours à des contrats de travailleurs indépendants pour des gens qui étaient en fait traités comme des employés, sauf bien sûr pour ce qui est des congés payés, arrêt maladie et accident du travail. Il est donc demandé à l'entreprise de payer tous les salaires impayés en plus d'impôts dont elle ne s'était pas acquittée. Ce sera une affaire à suivre car pour tenter de se soustraire à ces paiements, l'entreprise a annoncé quitter le marché australien. Et par peur aussi de l'organisation qui naît parmi les livreurs dans d'autres pays, les filiales italiennes, françaises et néerlandaises sont mises en vente. Alors c'est pas suffisant et l'idéal ce serait que tous les salaires impayés de tous les employés et de toutes les entreprises de livraison à vélo soient effectivement payés. Mais c'est quand même la preuve que ça vaut le coup de ne pas se laisser faire et que l'impunité ça peut ne pas durer.
Juste une petite info pour compléter ça, en Europe et en France, il y a des livreurs qui nous entendent, il y a oui clairement des organisations qui sont en train de s'auto-monter, notamment un syndicat aussi autour de la CNTSO qui est en train de développer en fait l'encadrement et la syndicalisation de tous les livreurs pour demander au niveau européen avec des camarades espagnols la régularisation en fait des véritables contrats de travail et des véritables conditions pour l'ensemble de ces livreurs.
Peut-être une bonne nouvelle.
Ouais, peut-être une très bonne nouvelle à l'avenir, on attend de voir.
Alors, on continue en espérant que ça débouchera sur une bonne nouvelle, hein, avec les mobilisations en Italie, puisque ce vendredi dernier, donc, environ 100 000 étudiants et étudiantes ont manifesté dans 70 villes italiennes différentes contre le gouvernement et plus particulièrement contre un certain Matteo Salvini. Vous savez, le ministre de l'Intérieur, chef de file, le vrai chef de file du gouvernement, hein, et de la Ligue du Nord, le parti donc néo-fasciste d'extrême droite. Alors, pour rappel ou information, déjà la semaine dernière, il y a un certain nombre de manifestations qui ont eu lieu. La première, les premières, c'était contre le projet de réforme que mène un sénateur, membre de la Ligue du Nord, hein, donc qui s'appelle Simone Pillon. Il est connu pour ses positions, entre autres choses, anti-avortement et contre le mariage gay. Et il prévoit de réformer le droit de la famille sur les couples divorcés et le droit des enfants. En gros, le texte repose sur le principe d'une répartition égale du temps entre les deux parents après séparation, hein, et la suppression de la pension alimentaire qui serait remplacée par une somme équitablement répartie par les deux parents, entre les deux parents. Quant à l'enfant, il ne pourrait pas choisir avec quel parent il veut habiter. Alors, selon la CGT italienne, hein, je la cite, il s'agit d'un projet de loi machiste qui veut ramener les femmes 50 ans en arrière. Il ne met pas du tout les enfants au centre du bien-être, le bien-être des enfants au centre, pardon, de la question, et fait obstacle à la séparation en la rendant accessible seulement à ceux qui ont des revenus élevés. Et puis surtout, on le sait, hein, ce sont très majoritairement les mères qui ont la charge financière et mentale des enfants lors des séparations. Et donc, supprimer cette pension alimentaire, c'est s'attaquer financièrement, directement, à bon nombre de femmes, à la majorité même, dans le cadre des séparations, qui, rappelons-le, en Italie comme ailleurs, gagnent beaucoup moins que les hommes pour un même travail. Alors ça, donc, c'était le samedi 9 novembre. Il y a eu des manifestations à Rome, à Turin, à Milan et à Florence. Le 10 novembre, il y a des milliers de personnes qui se sont retrouvées à Rome et qui ont manifesté dans le centre de Rome contre le décret sur la sécurité, un décret donc anti-migrant, évidemment défendu par Salvini et voté par le Sénat via un vote de confiance. Ce texte, il remplace en particulier les permis de séjour humanitaires qui sont actuellement octroyés à 25% des demandeurs d'asile et qui sont d'une durée de 2 ans. Donc ils vont être remplacés par divers autres permis comme protection sociale, entre guillemets, plus dur à obtenir et d'une durée d'1 an seulement, ou encore catastrophe naturelle dans le pays d'origine d'une durée unique de 6 mois. En plus de cela, il y aura une procédure d'urgence afin de pouvoir expulser tout demandeur se montrant dangereux. D'après vous, qui va pouvoir décider de cette dénomination? Les flics, la préfecture, bien sûr. Dernier point de cette loi, hein, et pas des moindres, c'est la réorganisation du système d'accueil des demandeurs d'asile qui, début novembre, était quand même 146 000 en Italie, qui seront parqués et fliqués dans de grands centres par mesure d'économie. Voilà le contexte. Ce vendredi, donc, plusieurs organisations étudiantes ont appelé à se mobiliser, d'abord et en premier lieu contre les coupes budgétaires que subissent les universités italiennes, et aussi contre la précarité étudiante qui touche massivement les étudiants et les étudiantes italiens qui, pour beaucoup, abandonnent leurs études. Hein, l'Italie est un des pays d'Europe où les étudiants abandonnent le plus leurs études, et c'est notamment à cause de cette précarité et du salariat. Et aussi, hein, cette manifestation était appelée contre Salvini lors d'un No Salvini Day, et plus largement contre les politiques du gouvernement de la Ligue du Nord, mais aussi du mouvement 5 étoiles, qui, pour rappel, on l'a déjà dit plusieurs fois, n'est pas un mouvement inclassable politiquement, mais c'est un mouvement d'extrême droite qu'on pourrait qualifier de rouge-brun. D'ailleurs, les étudiants ne s'y sont pas trompés, puisque à Rome, à Milan et à Naples, de nombreux drapeaux de la Ligue du Nord, mais aussi du mouvement 5 étoiles, hein, ont été brûlés lors des cortèges. À Milan, les manifs ont même fait un petit détour par le consulat des États-Unis pour témoigner de leur solidarité avec la caravane des migrants et pour montrer leur opposition face aux politiques anti-migrants de Trump. Voilà, donc 100 000 étudiants et étudiantes en tout vendredi dans toute l'Italie, dans 70 villes, c'est beaucoup. Et c'est peut-être le début d'une grande mobilisation étudiante, on l'espère en tout cas.
Et donc oui. Et pour, avant de passer au national, on va passer par un petit intermède musical qui va nous mettre dans l'histoire. On va passer.
Les menottes, les notes, la machine à taper. Ton nom, prénom, naissance, nationalité. Poche vidée, ensuite lacée, ceinture enlevée. Feu d'artifice et l'armistice, le pays est en fête. Pour moi la fête en garde à vue dans les cages de la police. 9h, 11h, passe, ton nom est sur le tas. J'ai fait 6 pas dans l'enfer des galères. La poisse, les empreintes, les plaintes et ce tribunal. Ma famille et mes proches en soutien principal. Pimpon, pimpon. Les flics éclatent, roulent à fond, bon, mon avocat est clair. Mais le juge persévère, il est 20h, mon matricule
49-203, chante en cellule, D128, la porte claque, mon cœur bat. Mon cousin, 49-204, me parle de date, me mate, enchaîne, soleil, business et rate. Le trouble est dans ma tête, et le maton
mon corps est enfermé, seul mon âme peut voguer. Barre aux portes bloquées, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés, les jours se répètent.
Et le maton
mon corps guette. Est enfermé, seul mon âme peut voguer. Barre aux portes bloquées, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête.
Et le maton
première nuit, guette. Matelas pourri, lit superposé. Carreaux cassés, des rapaces sous mes pieds. Au réveil, j'ai comme la corde au cou dans cette cage qui fouette. Dans la cour, les corbeaux, les mouettes font la fête tout l'heure. Résonne encore. Derrière les portes du pénitencier. Dans ma tête, gamelle, parloir, courrier tourné. Visite médicale, anormale et mon état zéro. Au moral, plus la matinale. Goal, mes dents me font mal. J'ai des boutons dans le dos, passif et les 100 pas. Parmi les prisonniers, 3 mètres de mur, 2 de grillage et un de barbelé. 8 douches dans le mois, en sueur sans bouger. Soirée télé, coucher, soleil d'été levé. Mon neveu que je n'ai pas vu naître au parloir me rend ouf. Dans ces murs, l'odeur des chiottes, du sale, de la bouffe, j'étouffe dans Goulag, la cellule, le stalag, les jours se répètent.
Et le maton
mon corps guette. Est enfermé, seul mon âme peut voguer. Barre aux portes bloquées, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés, les jours se répètent.
Et le maton
mon corps guette. Est enfermé, seul mon âme peut voguer. Barre aux portes bloquées, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête.
Et le maton
il suffit
guette.
D'être au mauvais moment, mauvais endroit. Et vlant dans tes dents, tu choisis pas, prends ça, trahis ma vie. Mon nom s'allie comme si j'étais un assassin. C'est comme perdre une partie de paupières contre Satan. Dans cette merde en chien, traité en moins que rien. Certains sortent puis reviennent de nouveau sous écrou. Dans ma cellule incamée, prends un cachet à chaque gamelle. Nouvelle, un suicidé évacué, menotté, c'est le dawa. Enfin pactage, libérant pour 49-203.
Ah, pas si t'es sorti.
Ça faisait des mois, j'ai remis lunettes, ma casquette et mes blanches baskets. J'ai rouvert et j'ai encore moins le goût pour la fête. Autour toujours nos embrouilles de rebeu et négro. Et le B de bleu sonne avec le B de barreau. Je dois signer, dire présent une fois par semaine, que personne m'engraine. Je dois pas me faire serrer avant mon jugement. Chez nous le son ne dit jamais, ça y est c'est fini. Ça m'arrivera pas, pas moi, moi je pourrais pas béton. Donc à tous les lascars qui ont tourné dans le noir, à toutes les familles qui attendaient au parloir, à tous les concernés par ce genre d'histoire, bonne chance si tu passes devant la barre. Judas fut le mauvais œil pour l'homme de Nazareth. Toi, n'oublie jamais que le maton nous guette. Mon corps est enfermé, seul mon âme peut voguer. Barre aux portes bloquées, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent.
Et le maton
mon corps est enfermé, seul mon âme peut voguer. Barre aux portes bloquées, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête.
Et le maton te
j'ai pas ta voix, encore moins la vision. Mais la mine de ton crayon m'offre une brève évasion. Mon corps est détenu, mais mon âme et mon esprit peuvent rejoindre l'horizon dans une brève évasion.
Et le maton
mon corps est enfermé, seul mon âme peut voguer. Porte bloquée, courrier, brève évasion. Donc à tous ceux qui ont galéré, qui galèrent en prison, à tous ceux qui te soutiennent pour pas que tu pètes les plombs. Tout le temps, tant de hargne, tout le temps, tant de larmes. Une pensée aux disparus, une pensée aux enfermés. Bois d'Arcy, Onifrène, Fleury, Santé, Nanterre, les Baumettes et les autres zonzons. Parloir, courrier, tourné, c'est la mer, tu le sais. Dans tous les quartiers, quand le maton te guette.
Oui, quand le maton te guette.
Le maton
te guette.
C'était donc, oui, le maton te guette de Passy. Alors, donc, bah, vous êtes bien sur 102.2, la plus dynamique des radios.
Et la plus rebelle des radios.
La plus malade des radios aussi. Donc, on va donc reprendre en passant au national avec, avec un sujet sur Génépi qui est interdit de prison.
Oui, et le Génépi, c'est quoi? C'est en effet...
C'est un alcool, non?
C'est nul. C'est un alcool, mais c'est en effet aussi une association étudiante qui remonte, qui vieille de 42 ans et qui intervient auprès des prisonniers, qui organise des ateliers dits socioculturels qui peuvent prendre la forme de, d'un accompagnement aux études ou la mise à place de loisirs, tout simplement. C'est une association qui, à sa création, n'était pas la plus radicalement anticarcérale et son objectif était surtout de favoriser la réinsertion des prisonniers. Mais depuis quelques années, elle se permet des prises de position nettement plus politiques et a notamment ajouté à la liste de ses missions le devoir de porter à l'extérieur la parole des prisonniers et de témoigner de ce que les bénévoles constatent sur la vie carcérale. Ils organisent donc chaque année des campagnes d'information et de sensibilisation, et surtout l'association a mené au fil des années une vraie réflexion sur son propre fonctionnement et sur son rôle. Ils n'ont peut-être pas toujours un positionnement complètement anticarcéral, mais par exemple, si la réinsertion reste un de ses objectifs, elle se distance du concept de réinsertion tel que défini par le gouvernement, c'est-à-dire que pour le Génépi, la réinsertion doit être choisie et non pas forcée, et cette réinsertion doit se faire par le biais d'un projet que le détenu aura défini lui-même et pas forcément une insertion économique. L'association a souvent dénoncé les mauvais traitements et les humiliations que doivent subir les prisonniers, et elle fait par exemple comme condition pour l'organisation de ces ateliers qu'ils n'engendrent pas de traitements portant atteinte à la dignité des détenus. Par exemple, une fouille à nu obligatoire à la sortie des ateliers. Pas de matons présents lors des ateliers, ni caméra, ni aucun dispositif de surveillance pouvant entraver la liberté d'expression des détenus, ou alors l'atelier est annulé. Pour eux, les prisonniers doivent avoir accès aux mêmes activités, aux mêmes études que les personnes libres, étant donné que, d'après la loi, la prison prive les individus de leur droit d'aller et venir, et c'est déjà beaucoup, mais c'est la seule chose dont ils sont censés être privés. Alors qu'aujourd'hui, ce sont aussi les droits à la vie privée, à l'éducation, à la santé et à la dignité qui sont bafoués. En assumant une position plus politique et plus seulement humanitaire, les ateliers qu'ils organisent ont changé. Ils revendiquent des ateliers d'éducation populaire et non plus des ateliers scolaires ou socioculturels. Les ateliers se créent sur la demande des détenus, c'est-à-dire qu'on ne leur propose pas de faire de la peinture s'ils veulent apprendre une langue ou avoir accès à plus de livres. Ils se positionnent contre la vidéosurveillance en prison, contre la comparution immédiate et refusent le plus possible de participer à l'exécution de la peine des prisonniers. Par exemple, ils refusent de faire l'appel dans les ateliers et ils refusent de participer au programme Respect qui n'ouvre l'accès aux ateliers et aux loisirs qu'aux bons détenus avec un système de points. Ils assument aussi publiquement, dans les actes et assises du Génépi votés en Assemblée Générale à l'échelle nationale, ils assument donc publiquement de vouloir favoriser l'émergence d'une conscience politique de part et d'autre des murs. Et ces prises de position leur causent maintenant l'interdiction d'intervenir en prison. En effet, pour pouvoir passer les murs des centres pénitentiaires, l'association avait signé et régulièrement renouvelé une convention avec la direction de l'administration pénitentiaire. Convention qui, tout d'un coup, en septembre, ne leur a plus été renouvelée. Ce n'est même pas qu'on leur a refusé la signature, c'est qu'ils n'ont plus de contact et sont ignorés de l'administration. Et depuis le mois d'octobre, les établissements pénitentiaires partout en France leur ferment petit à petit leurs portes. Et le Génépi ne touche plus de subventions. Juste pour information aussi, l'administration pénitentiaire n'assure pas par elle-même le nombre d'heures d'activité auxquelles elle est légalement tenue. Le Génépi ayant rendu la chose publique, Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, s'est justifiée sur France Inter en disant que le Génépi, je la cite, « développait des thèses très hostiles à la publique politique que nous conduisons ». Évidemment que la tentative de recensement des suicides et morts suspectes en prison que le Génépi a menée l'année dernière n'a pas dû plaire. La liste des morts se terminait ainsi. Cette liste s'ajoute aux autres listes, nombreuses, des morts et mortes de l'État, des morts et mortes de l'ombre. Féminicide, mort et mort de la rue, mort et mort des migrations, mort et mort des violences policières. Nous ne les oublierons pas, nous dénonçons haut et fort ce qui est caché car nous savons. Aujourd'hui, le Génépi met en lumière le fait qu'un partenariat avec l'administration est conditionné par l'absence de critiques et de réflexions sociales. Ils sont soutenus par un grand nombre d'associations et de syndicats qui ont rédigé une lettre ouverte de soutien, mais il faut surtout retenir de tout ça qu'il est inacceptable pour l'administration pénitentiaire que le monde extérieur sache ce qu'il se passe vraiment en prison et qu'on puisse avoir un avis divergent sur ces pratiques.
Et donc, après le Génépi, on va partir voir une prison à ciel ouvert du côté dans le sud de la France, à Marseille plus précisément.
Quelle transition, mais c'est magnifique. Alors, mais que se passe-t-il à Marseille ? Eh bien, Jean-Claude Gaudin, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, organise la gentrification à coups de matraque et de lacrymogène, laisse des immeubles entiers à l'abandon, ce qui provoque l'effondrement de certains, hein, on l'a vu, et il vend le centre-ville historique aux promoteurs immobiliers. Alors, petit récapitulatif historique, hein, pas très ancien non plus, hein, mais le panier Noailles, Bellons ou Bellins, je ne sais pas comment on le dit, mais bon, en tout cas, B-E-L-L. UNCE, Belzins, voilà. La Plaine et l'Opéra, voilà, ça arrive. Hein. La Plaine et l'Opéra ne sont que des quartiers historiques et populaires au cœur du centre-ville, pas loin du Vieux-Port, de l'Hôtel de Ville ou de la Canebière. Alors, c'est une spécificité marseillaise d'avoir plusieurs quartiers populaires en plein cœur de la ville. Alors, qui est donc ce maire, là, Jean-Claude Gaudin ? Parce que nous, à Lyon, effectivement, on se plaint à raison hein, de Gérard Collomb, mais ils ont aussi raison, visiblement, de s'en plaindre à Marseille de ce Gaudin. Alors, il est né en 1939, oui. C'est un ancien président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur de 86 à 98. Il a été député de 1978 à 89, sénateur de 1989 à 2017 et à plusieurs reprises vice-président du Sénat.
De 95 à 97, il est ministre de l'aménagement du territoire de la ville et de l'intégration dans le deuxième gouvernement Juppé. Sur le plan partisan, il a d'abord fait partie de l'UDF, donc c'est, vous savez, c'est le parti qui a été fondé par Giscard et ensuite qui a été le soutien de Balladur. Dans les années 80, il conclut une alliance avec le Front National pour prendre la présidence de la région PACA. Puis il sera vice-président de l'UMP de 2004 à 2007. Il soutiendra Nicolas Sarkozy. Puis il sera, à raison, le soutien de Jean-François Copé à la primaire de l'UMP en 2012.
Un beau pari.
Il est fin. Il a bien vu. Et il devient même président du Sénat en 2011. Donc voilà. Pour la droite, Godin, c'est pas n'importe qui. En 95, quand Chirac est élu président, et ben lui, Godin, il est élu maire de Marseille. Ça fait donc 23 ans qu'il est maire. Il a aujourd'hui, attention, il bat Gérard Collomb, 79 ans. Et ça fait donc.
Et c'est Georges Frêche qui doit avoir peur de se faire détrôner aussi.
Ah ouais, mais c'est vrai qu'il doit se retourner dans sa tombe. Il doit stresser un peu le machin. Bon, donc, ça fait 23 ans que ce brave homme, hein, Godin, gentrifie Marseille. Alors, évidemment, principalement les quartiers populaires, c'est le principe. Hein. L'exemple le plus marquant, c'est sans doute celui de la Joliette, puisqu'en 1995, le projet Euro-Méditerranée est lancé. L'objectif, c'est de créer un quartier d'affaires à la place du quartier populaire, tranquille. Donc, 23 ans plus tard, il n'y a plus rien de populaire aux Joliettes, à la place des bureaux et des jolis palmiers. Alors, Godin, son objectif, hein, c'est de vendre littéralement Marseille aux promoteurs. Ce processus de gentrification, il est toujours en cours, par exemple, au Panier et à Belzins. C'est bizarre quand même. Et c'est plutôt bien avancé. La première conséquence de cette gentrification, bien sûr, c'est que des populations entières précaires sont expulsées au nom des projets des promoteurs et sont obligées de s'installer dans des quartiers populaires périphériques. Alors bien sûr, des résistances se sont organisées et s'organisent. Hein, on l'a vu là récemment avec la Plaine, où les projets de la ville ont été un temps bloqués par des habitants, puis violemment réprimés à partir du 23 octobre par les CRS. Depuis plusieurs semaines, plusieurs manifestations importantes ont eu lieu pour préserver la Plaine. Mais dernièrement, la deuxième facette est d'autant plus macabre, hein, de la gentrification s'est dévoilée, puisque le 5 novembre dernier, vous l'avez forcément vu, deux immeubles se sont effondrés rue d'Aubagne. Deux immeubles, donc cet effondrement qui a fait 8 morts. Ce 14 novembre, le Canard enchaîné a révélé que de nombreuses expertises, dont certaines sont parues dès 2015, faisaient état de risques d'effondrement d'immeubles. Pour ce qui est des immeubles rue d'Aubagne, la dernière expertise avait été effectuée seulement 10 jours avant les effondrements. Et l'un des deux immeubles, qui appartenait à Marseille Habitat, était sous arrêté de péril depuis 2006. Voilà donc ce que fait Godin. Il détruit les quartiers populaires du centre, un par un, pour les vendre à ses potes, les promoteurs immobiliers. D'ailleurs, Godin a plein d'affaires au cul, hein, des affaires de favoritisme, de corruption qui lui tombent dessus une par une. Hein, donc, d'un côté, il fait ça. De l'autre, il laisse crever des habitants dans des immeubles insalubres, ultra dangereux et proches de l'effondrement. Il est donc, Jean-Claude Godin, est donc le premier responsable des 8 morts de ce 5 novembre. C'est pourquoi, ce mercredi 14 novembre, s'est tenue la seconde marche de la colère. Plus de 10 000 personnes, ce qui est beaucoup, hein, qui ont manifesté, hein, et ont notamment défilé rue d'Aubagne au cri de « Godin assassin »,« Godin démission », »,« Marseille debout, soulève-toi », »,« Godin salaud, Marseille aura ta peau », etc. Très rapidement, les flics ont chargé la manifestation, l'ont coupé en deux, puis les charges se sont succédées et se sont accélérées dans la soirée de manière violente. Il y a eu plusieurs blessés. Pour une fois, il n'y a pas eu d'interpellation. Depuis le début de la mobilisation en octobre à la Plaine, hein, il y a quand même une trentaine d'interpellations, de garde à vue et une vingtaine de procès qui vont arriver. Pour conclure, il y a un appel ce samedi 24 novembre à un bal masqué contre le chantier de la Plaine et plus largement contre ce fameux Jean-Claude Godin. Le rendez-vous est à 16h. Au Vieux-Port ce samedi 24 novembre. Donc, bon courage aux camarades marseillais et vivement que Godin, bah, je sais pas, il lui arrive un petit problème, quoi.
Mais parce qu'à Marseille, les bâtiments s'effondrent, mais en fait, on en parle peu, mais à Lyon aussi, en fait, il y a plusieurs immeubles qui ont été évacués discrètement ces derniers jours parce que pour des risques d'effondrement extrêmement précoces. Et donc, on le dit pas trop publiquement, mais en fait, à Marseille comme à Lyon, c'est la merde. Et avant de revenir au local et donc de parler de notre chère belle ville, on va faire une petite pause musicale et à tout de suite.
Si le poinçonneur des lilas. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Il y
Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, il y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de sous-métier, moi je fais des trous dans les billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour invalide changer d'opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en mène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je dis vague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour me sortir de ce trou, je fais des trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrais m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou, un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou et je t'entendrai plus parler de trous, plus jamais de trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Alors, donc, comme vous avez pu l'entendre, on vous a passé le poinçonneur des lilas de Serge Gainsbourg, qui est une vieille chanson de 1959, mais qui me paraissait très appropriée, pour passer au local et à Lyon, qui est en train de battre un nouveau record, encore une fois de plus un très triste record, qui est celui de devenir la ville la plus chère de France au niveau des transports en commun. Donc voilà, donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu très récemment une annonce du Citral, qui est donc l'organisme qui est chargé de la gestion de tout ça dans la métro, et qui nous a gentiment annoncé que bah, carrément il prévoyait un plan pluriannuel d'augmentation des tarifs pour augmenter certains abonnements jusqu'à quasiment 1,40€ pas tous les mois, avec des augmentations donc qui peuvent aller de 10-20% sans problème. Donc il prévoit un plan pluriannuel de 2 ans. Pourquoi ? Parce que bah, en 2020 c'est les élections, donc ils veulent éviter qu'on en parle à ce moment-là. On peut le comprendre aussi parce que c'est clairement pas très très populaire. Et alors qu'à l'heure actuelle, dans la France rurale, alors que la France rurale et périurbaine manifestent ce week-end notamment contre l'explosion du coût de la vie et des transports, que des milliers, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour répondre à l'appel de la hulotte nationale, et ben en Lyon, on augmente les transports en commun. Donc on fait une fois de plus à peu près tout ce qu'il ne faut pas, alors qu'en même temps, des villes de plus en plus grosses travaillent et réfléchissent et mettent carrément en place la gratuité dans les transports en commun, et ben à Lyon, on continue à augmenter le tarif, et ce qui amène évidemment à une exclusion des plus pauvres, et qui dit ben, en fait les plus pauvres sont exclus, mais ils ont quand même besoin de prendre les transports en commun, et donc qui nous ramène à ce qui s'est passé l'année dernière, que le Citral a augmenté de plus de 40% là, en moyenne l'ensemble de ses amendes pour lutter contre...
Oui, mais ils ont mis des diffuseurs d'odeurs dans les principales stations.
Pour faire passer la pilule, ouais.
Les pauvres, ils sentent pas bon aussi.
Ouais, c'est ça. Là, cette fois, on sait pas trop ce que c'est la justification.
Ah, non, mais c'était assez magique. Donc, mais si, la justification, c'est qu'en fait, la lutte contre la fraude coûte tellement cher qu'il faut bien la rendre rentable. Et en fait, elle-même, on a beau augmenter le tarif des amendes, elle ne l'est toujours pas. Et c'est, en fait, ces contrôleurs coûtent, comme très, très souvent, beaucoup plus cher qu'ils ne peuvent rapporter.
Mais ça va, ils ont toujours pas d'entraînement pour courir trop vite.
C'est pour les gens valides. Les superviseurs de métro seront en grève là depuis la semaine dernière.
Alors oui, mais ils sont en grève parce que sur la question des conditions de transport, de travail, comme le rappelle la CGT, et ils sont en train de renégocier tout cela. Mais ce qu'il faut voir, c'est aussi que l'ensemble de ces tickets, de ces prix, coûte en fait une misère dans l'ensemble du budget de la question des transports. En général, c'est entre 10 et grand maximum 20% selon les villes, et qu'en fait le transport en commun n'est absolument pas financé par les tickets, et financé par un certain nombre de taxes à l'entreprise et les impôts de l'ensemble des personnes qui sont sur le territoire.
Et qui plus est, Lyon, c'est au-delà des transports en commun, c'est aussi la ville la plus chère pour les amendes de stationnement, puisque sur la Presqu'île, c'est 60 €, et sur le reste de la ville de Lyon, c'est 35 € l'amende, ce qui en fait aussi la ville la plus chère de France. Donc en fait, pour tous les types de transports, en fait, effectivement, c'est comme ça, il y aura de moins en moins de pauvres qui pourront aller au centre-ville, puisque la Presqu'île, c'est le centre-ville. 60 balles l'amende, bon, et le paiement aussi, hein, sans avoir d'amende, mais juste payer son stationnement, c'est une des villes les plus chères.
Mais surtout quand on nous parle de la mise en place d'un possible futur péage urbain, donc qui contraindrait les personnes, une fois de plus les plus pauvres, à rester à l'extérieur de la ville, et qui pourrait être intéressant avec une politique de gratuité des transports en commun, comme ça peut se faire ailleurs, mais on voit bien que là c'est à peu près l'opposé de ce qui est en train de se faire. Donc une fois de plus, Lyon roule en sens inverse. Et donc nous, on ne peut que vous conseiller d'aller voir un magnifique article qui s'appelle « Conseil aux usagers ». Ah, j'arriverai à l'ouvrir. Vous pouvez aller voir sur Rébellion, qui s'appelle « Conseil aux usagers des transports TCL » et qui vous explique les différentes démarches légales qui vous permettraient d'éviter, en cas de contrôle, on vous rappelle que la course à pied, c'est efficace, mais qu'il y a un certain nombre de techniques légales qui vous permettront d'éviter un certain nombre de problèmes.
Et n'hésitez pas à donner vos tickets quand vous sortez du métro.
Surtout, oui, voilà.
C'est une très, très bonne habitude.
Parce que un des seuls intérêts de cette foutue ville, c'est que les tickets sont valables une heure, quelle que soit la personne qui les utilise. Donc, il y a eu des campagnes de solidarité qui sont organisées. On continue à les promouvoir. Donc, pensez à laisser vos tickets en sortant. Si vous avez plus besoin, ils pourront servir à d'autres. Et donc, sur Lyon, on va maintenant pas se fêter un anniversaire. Enfin,
l'arrivée. Non, pas du tout un anniversaire.
Une naissance, oui.
C'est bientôt. Il est né le 5 décembre, donc c'est bientôt son anniversaire. Alors,
on fêtera ça en temps voulu.
C'est ça. Donc, c'est donc l'arrivée de monsieur Pascal Mélos, ou Mayos, qui est notre nouveau préfet.
Et oui, ça vous a peut-être échappé avec le retour du grand Gérard dans nos belles contrées lyonnaises. Mais le remaniement, c'était aussi à la préfecture, puisque le 6 novembre, Pascal Mayos était nommé préfet du Rhône. Alors, il remplace qui d'ailleurs ? Est-ce que vous vous souvenez du nom de l'ancien préfet ?
Oui,
Stéphane Bouillon, qui a été nommé directeur du cabinet de Castaner. On ne le connaît pas très bien parce qu'il remplaçait Henri-Michel Comette, qui avait été limogé à la suite des attentats de Marseille. Donc en ce moment, les préfets à Lyon ne font pas très long feu. Ce qui change un peu d'habitude, parce qu'on avait eu très longtemps Delpech et Carenco, mais c'est pas très grave si le nouveau reste pas longtemps non plus. Alors, je vous cache pas que j'ai passé pas mal de temps à éplucher la bio de cet énarque, toutes ses interventions dans la presse ou ses communiqués, et qu'il n'y a pas grand chose de palpitant. On va quand même essayer de dresser un rapide portrait de celui qui va nous réprimer dans les mois, voire années à venir, parce que c'est toujours bien de connaître ses ennemis. Alors, de 86 à 88, il est chef du cabinet de Philippe Séguin, qui à l'époque est ministre des Affaires sociales et de l'Emploi. Ensuite, il va passer de cabinet en préfecture, en passant régulièrement au ministère de l'Intérieur. De 93 à 95, il sera ainsi conseiller technique au cabinet de Charles Pasqua, qui est alors ministre de l'Intérieur. Il travaille alors en étroite collaboration avec Claude Guéant. En 99, il est chef de service au ministère de l'Intérieur et il est chargé précisément de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière. Ça veut dire qu'il connaît sûrement particulièrement bien la question de la migration. Il est titularisé préfet en 2003, puis devient, et c'est probablement l'élément le plus intéressant de sa biographie, directeur des renseignements généraux de 2004 à 2006. Alors, c'est une nomination qui a son importance parce qu'elle va faire l'objet d'un conflit entre Chirac. Alors, excusez, je suis un peu déconcentrée car le studio est en train de partir en morceaux. Mais tout va bien.
Non, on arrive.
Je disais donc qu'il était nommé directeur des renseignements généraux, patron des renseignements généraux en 2004. En fait, c'est Chirac qui va le nommer contre l'avis de Sarkozy, qui est alors ministre de l'Intérieur, et qui souhaitait mettre Squarcini, le fameux Squarcini, à cette place. Ça va être l'objet d'une longue mésentente entre Chirac et Sarkozy. En fait, c'est un peu un homme de paille, hein, ce Pascal Maillot. Il est souvent utilisé pour éviter la nomination de quelqu'un d'autre. Ensuite, une fois qu'il part de la direction des renseignements généraux, il va passer dans différentes préfectures, celle du Finistère, ensuite il sera préfet de la région Bourgogne et de la Côte d'Or, puis préfet de Midi-Pyrénées et de Haute-Garonne, et là, il vient d'être nommé préfet du Rhône. Alors, pour sa nomination... il a donné un discours assez lissé à la presse, hein, en invoquant une politique de l'équilibre entre fermeté et solidarité. Alors, quand on connaît les pratiques de la préfecture, notamment en matière d'immigration ces derniers temps, ça fait toujours marrer toute cette mesure dans le discours. Quoi qu'il en soit, un préfet restant un préfet, on ne doute pas qu'il fera appliquer la loi Collomb, je le rappelle, qui est son ancien supérieur hiérarchique, avec une détermination sans faille, comme tous les petits laquais aux ordres qui se succèdent à la préfecture. On ne souhaite donc pas la bienvenue à Pascal et on espère qu'il repartira très vite. Et tous ses successeurs, pareil.
Malvenu, Pascal.
Et pourquoi nous ?
Bon, on va continuer tout ça. En attendant que, si lui n'a pas encore fait grand-chose, d'autres s'acharnent au niveau de la répression. Et donc, on va parler de ce qui s'est passé ces dernières semaines par rapport à une offensive majeure de la part des forces de l'ordre contre les groupes antifa lyonnais.
Ouais, du coup, effectivement, hein, mardi 13 novembre, hein, donc probablement à l'initiative de la préfecture et de la mairie, à 6h du matin, des flics cagoulés. Ouais,
et du parquet. Hein.
Et du parquet, c'est ne
important.
L'oublions pas.
Oui, tu as raison. Dans cette affaire, je pense que le parquet
a un rôle à jouer très important. Donc on a effectivement tous les organes de la répression, toutes les institutions répressives qui sont à l'initiative. Donc des flics cagoulés et armés ont déboulé violemment chez plusieurs camarades, membres ou non de l'AGAL, hein, le groupe antifasciste Lyon et environ, avec pour certains des menottages musclés, suivis d'une perquisition, puis placés en garde à vue pour 24 heures et présenté devant un juge d'instruction le lendemain. Alors, les faits reprochés sont dégradation en réunion pour avoir notamment, soi-disant, érigé un mur devant le pavillon noir. Vous savez, le pavillon noir, c'est le local des néo-fascistes, néo-nazis du bastion social, hein, qui est dans le 5e arrondissement, qui a été fermé provisoirement dernièrement pour des questions de sécurité, mais qui pourrait probablement réouvrir derrière. Donc, dégradation en réunion, outrage à agent pour un tag qui aurait été tagué, qui critiquerait la police, et c'est là le pire, l'association malfaiteur, puisque ces dégradations ont été faites, figurez-vous, avec préparation et à plusieurs. Alors, l'association de malfaiteurs, c'est l'inculpation la plus grave et qui prouve bien que le pouvoir veut leur faire mal. Quand je dis leur, c'est à la gale, hein, puisque c'est rare. C'est assez rare que dans un cas de dégradation en réunion, il y ait aussi associé donc cette fameuse association de malfaiteurs qui, dans le code pénal, pour information, pour rappel, c'est 50 prisons fermes et plusieurs milliers d'euros d'amende. Alors, un des camarades sera également jugé, en tout cas probablement jugé, pour refus de donner des codes de cryptage et des codes PIN de téléphone et ordinateur. Mais ce qui est également particulièrement choquant, c'est les perquisitions en elles-mêmes. Les flics ont pris non seulement tout le matériel de la GAL qui était présent dans les lieux qu'ils ont perquisitionnés, tracts, affiches, badges, tout, la totalité, l'intégralité. Tous les vêtements qui avaient de près ou de loin une connotation politique. Par exemple,
les gilets jaunes. Alors, ils se sont fait confisquer leurs gilets jaunes.
Ouais, c'est vrai. C'est tristement vrai. Mais surtout, ils se sont fait confisquer, par exemple, des suites qui n'avaient rien à voir, puisque c'était des suites où étaient inscrits dessus « Vérité et justice pour Adama ». Tout le matériel de la GAL et ses vêtements ont été envoyés à la destruction. Plus choquant encore, ils ont embarqué énormément de livres, dont beaucoup vont être également détruits. dont un d'ailleurs qui n'est pas un bouquin politique puisque c'est un roman. Et comme les flics sont un peu cons...
un roman social.
Oui, c'est un roman social, mais il n'y a pas une connotation politique, il n'y a pas un appel à quoi que ce soit à l'intérieur. Mais comme les flics sont cons, ils se sont dit, oula, ça, c'est dangereux. Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette action.
Ah non, mais ça, mais
j'espère
c'est depuis que tu fréquentes Godin, ouais. T'as vachement changé, je trouve.
Il faut le détruire, quoi. Bon, bref. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il y a une véritable volonté de détruire le groupe et de condamner lourdement certains d'entre eux et elles. Alors que la justice n'a pour le moment aucune preuve matérielle de leur participation à les faits qui leur sont reprochés. Le préjudice financier se situe à plusieurs milliers d'euros, sans compter les frais de justice. C'est pourquoi un pot commun a été ouvert pour faire face à cette répression, donc il y a besoin de thunes. Ce pot commun, il est trouvable sur le site de Rébellion, je ne vous le donne pas comme ça, puisqu'il y a plein de petites lettres les unes à la suite des autres qui sont difficilement...
Que tu n'as pas appris par cœur.
Que je n'ai pas appris par cœur, ni noté, parce que vous n'avez pas un stylo sur vous immédiatement, j'en suis sûr. Mais en tout cas, allez sur Rébellion, il y a plusieurs articles qui parlent de ce qui s'est déroulé. Si vous avez un peu de sous, et bah, donnez-en leur. En tout cas, solidarité, anti-répression et antifasciste avec les 6 camarades inculpés.
Il y a une liste de bouquins, si vous voulez passer dans une super librairie lyonnaise pour en racheter pour leur offrir, vous pouvez. Il y en a 2 ou 3.
Ils sont tous disponibles.
Effectivement, ils ont fait un listing des bouquins, au moins la plupart dont ils se rappelaient et dont ils sont sûrs qu'ils vont être détruits. Des bouquins qui ont parfois rien à voir avec l'antifascisme, qui sont certes des bouquins politiques, mais on en a tous chez nous. Enfin.
Oui, puis de toute façon, les bouquins sur l'antifascisme, c'est pas forcément
quoi qu'il arrive,
non plus. Quoi.
Non, c'est pas interdit en tout cas.
Quoi qu'il arrive, les autodafés, c'est pas très à la mode.
C'est pas
quoi.
Cool, quoi.
Ouais, ça revient. La preuve, ça revient à la mode. On détruit des livres.
Visiblement.
Voilà.
Ok, ben voilà, sur cette très très bonne nouvelle, on va parler un peu d'espoir. En tout cas, on va parler de l'agenda en espérant qu'il sera.
Et ça, l'agenda, ça donne quand même vachement d'espoir.
Moi, quand je vais sur Rébellion et que je lis l'agenda, mais je suis rempli d'espoir après, mais c'est énorme.
La meilleure partie de Rébellion.
Ah ouais, ouais.
Ah là là.
Et donc, voilà, donc on va démarrer dès demain matin pour changer une grève. Et une grève, cette fois, à Pôle emploi, quelque chose d'assez rare, pour être souligné, que les usagers et les gens qui bossent à Pôle emploi se retrouvent en grève, donc demain matin à partir de 9h.
Pourquoi ?
Devant le Pôle emploi de la Part-Dieu pour dénoncer la baisse des effectifs et l'autonomisation des services entraînant la fermeture de l'accueil. Donc demain c'est une très très grosse journée, je vous préviens. À partir de 18h.
Ah, en plus il y a une alerte grand froid et tout. Hein.
Oui, en plus ça va être
sortez
sympa.
Couvert.
Sortez couvert, oui, c'est clairement dans tous les cas c'est toujours bon, une bonne protection.
Ouais. Merci. Hein.
Et donc à 18h.
Non, mais c'est vrai qu'on a un peu de temps, mais je meuble en fait parce qu'il reste 9 minutes.
Oui, donc... Non, mais on va faire un très bel agenda.
Et c'est possible que ça naisse demain, attention.
Oui, ben oui.
C'est pour ça.
Rassemblement enneigé, ça fera très Noël. Donc, pour en plus, demain, c'est un rassemblement de Jamais sans toi devant la préfecture à partir de 18h. Donc, Jamais sans toi, dont on a déjà parlé plusieurs fois ici, qui est cet intercollectif qui a pour but de faire en sorte que toutes les gamins qui sont dans des écoles soient logés quelque part de façon à peu près décente.
Et d'ailleurs, souvent, ils occupent des écoles la nuit. Et d'ailleurs, il y en a une qui a été occupée récemment.
Et oui.
Tu vas pouvoir nous la citer, j'en suis sûr.
Je crois qu'il n'a pas la bonne page ouverte, il est embêté.
Okay. Non, c'était Gilbert Dru, mais c'était une autre. Il y avait Gilbert Dru qui était occupé, et il y en avait une autre, mais c'est fini, donc je t'avoue, j'ai oublié le nom entre temps. Mais c'est bien la preuve que ça marche, en tout cas, donc il faut continuer à les soutenir. C'est que la dernière école, en fait, la préfecture, ils ont tellement marre de Jamais sans toi qu'en moins de 3 jours, maintenant, ils commencent à héberger les familles. Donc, une fois que vous avez fini ce rassemblement, vous pouvez venir à. Il y a différents événements en soirée. Une discussion, justement, comme on a parlé sur Marseille, dans le bar L'Amicale du Futur qui est au 31 rue Sébastien Griffe, donc a pour but de venir discuter tous ensemble de la situation de Marseille, que ce soit de la plaine ou maintenant du quartier de Noailles et de l'habitat précaire. Et en même temps
on rappelle quand même que c'est des questions qui sont intéressantes à connaître, surtout pour ceux qui habitent du côté de la Guillotière, puisque c'est un quartier qui est en pleine gentrification et sur lequel il y a des projets de réhabilitation urbaine qui vont une fois de plus expulser les plus pauvres du quartier vers la périphérie, et que du coup il sera important de commencer à s'en saisir aussi en tant que guillotin.
Et on vous tiendra au courant.
Pour mes amis de la Guillotière.
On vous tiendra bien sûr au courant, mais il devrait y avoir effectivement une assemblée générale début janvier contre la gentrification à la Guillotière spécifiquement, donc sur ce sujet.
On va continuer. Si vous préférez les ambiances un peu plus posées, mais pas forcément plus joyeuses, vous pouvez. Il y a le début d'un cycle en fait des Journées nationales de la prison JNP qui est donc qui va démarrer et qui se tiendra au Comédia par la projection d'un ciné-débat d'un film qui s'appelle Au bout de leur peine. Donc, ce même festival continue le lendemain avec un débat, une soirée témoignage d'anciens détenus dans la mairie du premier. Et en même temps, il y a, c'est dans les choses un peu plus désagréables, et sur la question de la précarité, en fait...
Que la prison, c'était super agréable. Ouais.
Et la gentrification aussi, c'est trop cool. Du coup, ouais.
Non, mais
belle transition.
Non, des trucs qu'on retrouve en prison et aussi dans pas mal d'endroits, c'est les punaises de lit. Et que...
Excellent. J'avais pas anticipé vers là où on allait.
La résistance de Crous de Mermoz qui a les
Crous
étudiants...
prison même combat.
là en l'occurrence
sur la question de l'hygiène et là c'est le même combat quoi, c'est clairement, et qu'il faudrait bien l'améliorer dans les deux, mais en attendant vu que les étudiants sont encore libres, eux se font une assemblée générale et se mettent pas en grève mais en tout cas vont discuter de comment ils vont pouvoir se mobiliser. Donc c'est là, je rappelle, une AG à résidence du Crous de Mermoz pour lutter contre la dégradation générale de la vie étudiante.
Surtout qu'on peut quand même rappeler que alors que poussent un peu partout tels des champignons venimeux des résidences étudiantes pour bourgeois privées qui coûtent extrêmement cher et qui viennent accueillir toute la bourgeoisie étudiante, de l'autre côté les résidences du Crous qui sont destinées aux plus pauvres des étudiants et qui sont le seul moyen pour les personnes qui n'habitent pas dans des villes où il y a des universités et dont les parents n'ont pas les moyens de leur payer un hébergement excessivement cher, de pouvoir continuer à étudier. Et du coup c'est quand même important de soutenir ces étudiants-là, probablement plus que tous les autres.
Et pourquoi pas ?
Et oui. Donc on vous invite à venir les soutenir. Oui. Enfin, si vous arrivez à passer la porte, sinon au moins à venir. Non mais les étudiants, ces étudiants sont tout le temps, ils sont privés normalement. Tout
c'est
monde
le plus long agenda qu'on ait jamais fait.
Oui, parce que il y a certains, dans certaines cités universitaires étudiantes, il y a des vigiles maintenant qui filtrent, qui filtrent les entrées de 22h à 7h du matin, et donc il y a même pas le droit de faire venir des potes. Enfin bon, bref,
c'est un peu la prison.
En dehors de la dégradation et des punaises de lit, il y a aussi du flicage
régulier. Tout ça sera, vous pouvez le retrouver sur Rébellion, il y a un communiqué de Solidaire qui rappelle tout ça. On va finir l'agenda de la semaine. Donc vendredi soir, il y a une cantine populaire en soutien aux camarades luttant à la frontière, donc à Clavière j'imagine.
Oui.
Et donc on vous propose de tous venir manger pour pouvoir les soutenir.
C'est à l'atelier des canulars
91 rue Montesquieu.
91 rue Montesquieu, et il y aura un peu des petites pastilles audio de témoignages de personnes qui sont passées par Clavière avant d'arriver à Lyon, et voilà.
Et il y aura aussi probablement des discussions pour voir comment on peut aussi mieux s'organiser entre Lyon et là-bas pour les soutiens.
Et leur apporter toute l'aide et le matériel dont ils ont besoin. Et pour finir, donc samedi, il y a plusieurs événements. Vous pourrez démarrer votre après-midi par une rencontre débat à la librairie La Griffe autour du livre Guy Ockenghen, La Révolte 46-48, avec son auteur qui est Cécile Voissé, VC.
J'ai cru que t'allais dire que Guy Ockenghen sera amené.
Non, ça va être un peu compliqué. Et le soir, vous pouvez venir manger toujours à l'Amicale pour une cantine solidaire en soutien au collectif Jamais Sans Toi, précédemment évoqué dans cet agenda. Et ben pour la semaine va donc se finir. Dimanche, je crois, pourtant,
on peut aussi inviter les gens à se rendre, comme on le disait tout à l'heure, à Marseille pour soutenir la plaine.
Samedi 24 à 16h au Vieux-Port, samedi 24 novembre à 16h au Vieux-Port. Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, venez à Marseille, il y a besoin de soutien.
Très bien.
Eh ben nous, on va vous.
C'est une heure raisonnable pour rendre l'antenne.
Ouais, je pense que on a réussi à tenir. Il nous reste même pas 2 minutes 30, donc c'est plutôt classe. Et on va vous rendre l'antenne et puis vous remettre sur les bandes continues en attendant la prochaine émission.
À la prochaine.
Au revoir.
Soft Moon, Out of Time. Shezula, Séance Friction. Et Björk, Violently Happy. Sur Radio Canu 102.2.